Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue dans l'équipée sauvage, ce tournoi journalistique opposant les meilleurs chroniqueurs d'Europe 1, où d'ordinaire, l'amour et les bons sentiments n'ont pas droit de citer, puisque le but de chaque journaliste est de ridiculiser tous les autres. Mais aujourd'hui, ma chère Eva Roque, que je salue au passage, bonjour Eva.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Aujourd'hui Eva, nous allons faire une exception et parler d'amour.
Ah ouais.
Alors, non, pas forcément de cet amour physique, bestial et primaire qui vous obsède tant Eva, mais d'amour avec un grand A. Oui, pour illustrer l'amour avec un grand A, j'ai demandé Carmen, car je sais là que vous adorez viser. Elle n'est pas nouvelle, mais elle permet de planter le décor. Car quelles que soient les époques, l'amour semble toujours fonctionner selon la cruelle équation « Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ».
Dites-moi au moins quand je vous reverrai.
Bientôt peut-être.
Oh, pariez grand, vous savez.
Pariez tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Émouvant échange entre Eva et son amant dans les ruelles de Montmartre aux alentours de 1946. Et si nous avons décidé de parler d'amour cet après-midi, c'est que nous recevons un grand écrivain qui lui consacre son dernier roman. Un roman d'amour tous les 10 ans, c'est le rythme qu'il s'était fixé. Bonjour Eric Orsenna.
Mais bonjour Europe.
Alors, bonjour Europe. Je peste souvent, on en parlait en antenne à l'instant, je peste souvent contre la fadeur des titres de romans ou des films ces dernières années, qui je trouve souvent manque d'originalité ou de poésie. Là, briser en nous la mer gelée, pam. Ça, c'est un titre de roman. On n'a pas ouvert le livre, qu'on l'aime déjà.
Ben oui, mais je l'ai piqué.
Ne le dites pas.
Mais si, ne le dites pas. Europe, c'est le lieu de la franchise.
C'est vrai.
Donc je suis dans la franchise. Donc je l'ai piqué à Franz Kafka.
C'est pas mal.
Qui disait qu'est-ce qu'un livre ? Un livre doit être une hache pour briser en nous la mer gelée. Et depuis très longtemps, je vivais avec cette phrase incroyable et je me disais quelle histoire va mériter d'être sous ce titre. Et voilà. Et donc j'ai trouvé l'histoire qui, à mon sens, mérite d'être sous ce titre. Admirable. Et au fond, c'est nous. Nous avons tous un peu ou une grande de mer gelée en nous. Donc il faut la faire fondre. Et le réchauffement climatique n'a pas que du mauvais.
On va évidemment parler de ce nouveau roman. Mais d'abord, Eric Orsenna, je vous présente les forces en présence cet après-midi. Puisque vous le savez, ou pas si vous écoutez RMC, ma mission cette saison est de mettre au pas les journalistes d'Europe 1. Croyez-moi, ils en avaient besoin. Leur devise, c'était doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Il y avait besoin de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, ce que j'ai fait en les mettant en compétition. Chaque après-midi, ils s'affrontent désormais au service de votre culture G. Un seul sera élu chroniqueur du jour. Je vous présente nos deux premiers concurrents. À ma gauche, ne vous fiez pas à ses airs angéliques et son teint radieux, fruit de longs étés passés à respirer l'air vivifiant du Finistère. Anne Le Gall est ce qu'on appelle une bretonne pernicieuse.
Ça, les bretonnes.
Ah oui, ah, on dirait que vous en avez connu une.
Puis en plus, elle m'avait filé la ch'touille.
Oui, non, alors non, inutile d'entrer dans le détail. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour Mathieu,
elle
bonjour
bretonne.
À tous.
Elle est bretonne. D'où ?
Du Finistère, je suis née, j'ai grandi à Quimper.
Quimper, Lodet, les rives de Lodet.
Absolument, mais évidemment, vous connaissez.
Oh là là,
je sens qu'Anne Le Gall a déjà marqué des points avant d'avoir prononcé une seule parole. C'est inouï. Vous êtes notre conscience verte, Anne Le Gall, l'expert environnement d'Europe 1, souvent porteuse de mauvaises nouvelles, pas aujourd'hui.
Pas aujourd'hui, puisque je vais vous expliquer que les Français sont de plus en plus prêts à payer plus cher leur voyage. Ils sont prêts à débourser plus pour partir, alors toujours en avion, mais en faisant attention à la pollution de leur vol. Je vais vous expliquer
comment
tout
fait
ça.
Attention à la pollution de son vol. C'est du moment où on monte dans un avion.
Il y a un nouveau comparateur qu'on peut utiliser sur Internet et je vais vous expliquer.
Ah, parce qu'il y a des avions qui polluent moins que d'autres aussi.
Et oui, absolument.
À ses côtés.
On les appelle des planeurs. Ou alors la montgolfière. Vous pouvez choisir la montgolfière qui pollue très très peu.
Tous les conseils voyage d'Eric Orsenna à suivre. À ses côtés, aux côtés d'Anne Le Gall, Eric, un journaliste qui a ce qu'on appelle le sens du teasing. Dès le sommaire, il marque toujours des points, tant sa manière de vendre son sujet est sexy. Preuve encore la dernière fois. Fred Goetti, aujourd'hui vous allez nous permettre de nous la péter dans les dîners en faisant semblant de tout connaître de Jimmy Page.
Et oui, qu'est-ce qu'il faisait Jimmy Page avant Led Zeppelin ? Bah, il était musicien de studio. Alors, c'est quoi un musicien de studio ?
C'est un musicien qui joue dans un studio.
Voilà.
Bonjour Fred Goetti.
Oui, bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Est-ce que vous avez mieux aujourd'hui ?
Alors c'est un orchestre néo-orléanais qui s'appelle l'Original Dixieland Jazz Band. Nous sommes le 26 février 1917 et ils sont comme nous, en studio, face à un micro et ils ont le track. Ils ont à peine 3 minutes pour enregistrer le premier 78 tours de l'histoire du jazz. Mais il y a d'autres choses qui sont passées en 17.
On va l'entendre le
bien sûr.
Vous avez l'extrait, le premier disque de jazz. Formidable, Fred Goetti. Le programme est donné, l'équipe est sauvage, spécial love, peut démarrer.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Eric Orsenna qui nous accompagne cet après-midi. Alors, je vous précise d'emblée, mon cher Eric, que vu que vous êtes membre de l'Académie française, par mesure de sécurité sémantique, Eva ne sera pas habilitée à vous interroger aujourd'hui. Une écoute rapide de ces dernières questions vous permettra de comprendre pourquoi.
Vous qui aimiez la musique et vous imaginiez rocker, vous auriez aimé être quel musicien ?
Voilà, alors, peut-être certains regretteront qu'on ne sache pas si vous auriez zut aimé être musicien ou si vous rêviez plutôt d'avoir tuté ornithologue, mais par sécurité, Eric Orsenna, on a décidé qu'Eva Rock ne vous poserait pas de questions. Brisez en nous la mer gelée. On le disait, vous l'aviez promis, un roman d'amour tous les 10 ans. Mais vous avez sauté celui des 60 ans, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui s'est passé là ?
Ben, y avait une sorte de vide.
Vous ne ressentiez plus d'amour ou vous viviez au contraire des moments compliqués ?
Non, à la fois les deux. Vous savez, ce n'est pas contradictoire. On peut avoir du vide et des moments compliqués. Et donc, et puis, il fallait qu'un personnage vienne et puis qu'advienne. Et qu'il fallait saluer ce personnage.
Donc... Alors là, vous nous racontez l'histoire d'amour entre Gabriel, spécialiste des cours d'eau, rien à voir avec un écrivain qui aurait écrit un bouquin sur l'eau il y a quelques années, et Suzanne, spécialiste des chauves-souris. Un homme et une femme d'un certain âge, il la demande en mariage au deuxième rendez-vous, il se marie, mais il divorce 4 ans plus tard. Une histoire pas tout à fait inventée, on peut le dire quand même, Eric Orsenna. Il y a beaucoup de vous dans ce roman.
Il y a beaucoup de moi dans ce roman, il y a beaucoup de vrai. Et ce qui m'amuse, c'est que quand vous avez une histoire vraie, elle accueille, elle aimante des tas d'autres histoires qui ne sont pas fausses, mais qui ne vous sont pas arrivées. Donc vous les incarnez vous-même, puisque l'histoire vraie, attirant les autres, c'est comme si on était en bateau, Finistère, et donc c'est un équipage. Et donc on dit, au fond, voilà, qu'est-ce que ça raconte de l'amour ?
Eva, vous avez lu ce roman, vous a-t-il réconcilié avec l'amour ? Non, mais ça va venir. Eric Orsenna est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, 1917, c'est la naissance du jazz. Et la naissance, cette année-là, de 3 légendes du jazz, Dizzy Gillespie, Duke Ellington et bien sûr Eva, chère à votre cœur, Ella Fitzgerald.
Ça a été ma belle-mère.
Oui, mais n'oubliez pas un petit cachet, Fred Doighty lui nous raconte les incroyables destins croisés de ces 3 génies du jazz, dont la belle-mère des baroques. À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Eric Orsenna est avec nous cet après-midi pour évoquer son dernier roman, un roman d'amour. Alors moi, je fais tout pour que cette émission soit placée sous le signe de Cupidon, de la tendresse, de la bienveillance. Mais voilà, les journalistes d'Europe 1, eux, s'en foutent de la tendresse et de la bienveillance. Ils sont là pour en découdre. Un seul sera élu tout à l'heure chroniqueur du jour, celui qui aura décroché les 2 points des auditeurs et les 3 points de l'invité. On a vu hier, avec le cruel exemple d'Axel de Tarlé, notre expert économie, dans quel état la défaite pouvait mettre nos journalistes qui deviennent parfois méchants.
Alors, Axel...
Quoi ? Non, ça part mal, là.
Axel,
j'aime pas ça.
Vous êtes un gentil garçon.
Non, pas de mais, pas de mais.
C'est quand même pas facile, votre histoire, et puis...
Moi, j'achèterai pas votre livre.
Espérons qu'en fin d'émission, Fred Doighty, notre premier concurrent, ne se montre pas aussi mesquin en cadre vert. Fred, vous nous parlez aujourd'hui d'une des plus belles années du jazz, l'année 1917.
Oui, alors nous sommes en 1917, effectivement, les États-Unis ne vont pas tarder à entrer en guerre, mais en attendant que le lieutenant et chef d'orchestre afro-américain James Freeze, Europe, ça ne s'invente pas, introduisent le ragtime et le jazz en France en débarquant à Brest au sein du 369e...
On retombe sur la Bretagne.
Oui,
cette émission est bien ficelée. Hein.
D'infanterie qui s'appelait les Harlem Hellfighters. Eh bien, avant donc que tout ça se passe, c'est un orchestre de musiciens blancs de la Nouvelle-Orléans, l'original Dixieland Jazz Band, qui enregistre le 26 février 1917, donc à New York, le tout premier 78 tours de l'histoire du jazz.
La question qu'on se pose, Fadek, pourquoi est-ce que c'est pas un orchestre de musiciens afro-américains qui a enregistré le premier disque de l'histoire du jazz ? Ça aurait été quand même un peu normal.
Alors, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Il y a évidemment des milliards de raisons socioculturelles. On va pas refaire l'histoire des États-Unis, mais il y en a une toute simple. La firme Victor avait proposé à un autre musicien un an avant, un musicien noir, Freddie Keppard, d'enregistrer un disque. Mais il a dit non, je ne veux pas parce que les répétitions n'étaient pas payées. Et il avait peur d'être copié aussi. Parce que mettez-vous à sa place, quand on enregistre, à l'époque, c'était tout nouveau de graver sa musique. On se dit, je vais être copié, tout le monde va piquer mon style. Donc, il a dit non. Alors, 1917, c'est aussi l'année de naissance de musiciens de jazz extraordinaires. Il y a effectivement Ella Fitzgerald. Mais j'aimerais aujourd'hui m'attarder sur 2 autres musiciens. Dizzy Gillespie, tout d'abord, l'un des inventeurs au milieu des années 40 d'un style savant, frénétique et révolutionnaire, le bebop.
Il
faut peut-être expliquer ce que c'est que le scat. Parce
alors
que tout le
scat,
ne sait pas.
C'est mettre des onomatopées, genre wap, wap, doubi, douba, sur des notes de musique au lieu des paroles. Donc on improvise des voilà, comme on peut chanter en franglais, bah non, les Américains, ils chantent en scat. Wap, doubi, doubi. Je vais pas le faire parce que je sens que je vais être bientôt dans un best-of.
On sent qu'il y a du niveau.
Moi, j'ai écrit des discours pour les politiques, je vais vous dire qu'ils squattaient.
Ah oui, c'est un autre style.
Ils scattaient et squattaient.
Ouais, ouais, bien sûr.
Ils squattaient ma prose et ils scattaient devant.
Est-ce qu'ils swingaient,
pas tous.
C'est hyper intéressant ce que vous dites. Vous avez écrit des discours pour les politiques. Ça doit être horrible quand ils n'arrivent pas à le dire bien ou qu'ils ne mettent pas les virgules là où il faut ou l'intonation et que vous l'entendez. Vous êtes là, non, c'est pas comme ça qu'il fallait dire. Ça vous arrive, ça vous arrive.
Exactement. Surtout quand ils sont trop longs.
Oui, le rythme n'est pas bon.
Parce que je ne suis pas pour le haïku politique. Mais enfin, au bout de 1h15, on commence à s'embêter. Quand c'est vous qui avez écrit le discours et qui commence à refaire des trucs et tout ça, et tout le monde autour de vous dit « Mais qui a écrit ce discours ?» Alors vous rentrez, c'est pas moi, non, pas du tout,
c'est
pas du tout.
Fred Gauthier.
Alors il y a un autre bopper de génie qui est né en 1917, hein, il s'appelle Thelonious Monk. Sa plus célèbre composition, Round Midnight, autour de minuit. Et pour terminer, j'aimerais conclure par une autre version de Round Midnight, chantée par une Américaine d'origine croate, dont les parents avaient quitté notre vieille Europe à cause de la Première Guerre mondiale, 1917. Son vrai nom est Jelena Anna Milsetic, pardon, je ne prononce pas bien le croate, et comme beaucoup d'immigrants, elle a choisi un nom d'artiste à consonance américaine, Hélène Merrill. Round Midnight, par Hélène Merrill, fête du jazz, pas la guerre.
It begins to tell round midnight, round midnight. I do pretty well till after sundown.
À chaque fois que Fred Gauthier fait une chronique, je ressors et j'ajoute une chanson à ma playlist, ou deux, ou trois. Merci Fred Gauthier, du fond du cœur. Et attention, voici mon instant vieux con. On vient d'écouter des trésors du jazz. Est-ce que Eric Orsenna, comme moi, vous avez du mal à savourer la musique d'aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il n'y a plus l'évolution qu'il y a eu au XXe siècle. Au XXe siècle, il y a eu le jazz, il y a eu le rock, il y a eu des tels bouleversements par rapport à la musique classique. On a l'impression que depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, je dirais, on n'entend rien de radicalement nouveau.
C'est peut-être ce sentiment-là, mais vous, vous êtes un enfant. Moi, je suis un immortel.
Oui, donc moi, c'est plus grave.
Différent. Vous comprenez. Donc, c'est un peu donc, étant immortel, j'ai le temps que quelque chose de nouveau arrive.
Oui, vous avez tout le temps.
Vous, un peu moins.
Je ne le connaîtrais pas.
Je sens
vrai.
Votre impatience. Mais voilà. Dans voilà. Tous les domaines de la vie, d'après ce qu'on m'a dit d'ailleurs.
Monsieur est bien informé. Eric Orsenna passe l'après-midi sur Europe 1.
Car je peux participer à la bataille des chroniqueurs.
Oui, je vois, vous venez quand vous voulez.
Europe 1.
À suivre, qu'est-ce que l'amour? L'amour peut-il renaître de ses cendres? C'est l'objet du nouveau roman d'Eric Orsenna qui est notre invité cet après-midi. L'amour, en tout cas, peut frapper n'importe où, même dans un studio radio, souvenez-vous.
Ah, mais ça me fait tellement plaisir que vous...
Ben, je sais pas, mais c'est... Enfin...
Deux étrangers...
Je vous raconte la suite juste après, tiens, justement, Jeanne Chéral, l'an 40 sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, rire, découvrir et même aujourd'hui exceptionnellement s'émouvoir. En compagnie de l'écrivain Eric Orsenna qui publie chez Gallimard « Briser en nous la mer gelée », un roman qui parle de l'amour avec un grand A. Pas de ces amours fugaces qui rythment la vie des Varocs, aussitôt consommés, aussitôt oubliés.
Comment il s'appelait le mec de l'an dernier? Le Mexicain?
Bon, vous voulez vraiment que je vous rappelle son nom en présence d'Eric Orsenna? Non. Alors Eric Orsenna, ne tournons pas autour du pot, est-ce qu'à 70 ans, je vais enfin comprendre quelque chose à l'amour?
La réponse est oui.
Et le sentiment amoureux, quand on a passé, disons, 60 ans, il est différent du sentiment amoureux qu'on peut avoir à 20 ans?
Ben, écoutez, quelque chose me dit qu'il est plus riche. Shakespeare dit quelque chose de formidable, c'est que les femmes qui ont pris de l'âge sont plus diverses. Parce que, évidemment, les années sont venues les nourrir. Et moi, j'aime bien les traces, vous savez, j'aime bien les rides, j'aime bien les histoires, j'aime bien... Je suis fou d'histoire. Pour moi, quand... Vous savez, on dit un amour, c'est une histoire. Il a une histoire, il a une nouvelle histoire. Est-ce que c'est une grande histoire? Et donc, plus vous avez vécu, plus vous avez d'histoire. Donc, on peut être bouleversé à tous les âges. On ne sait pas ce qui va se passer.
Autre question que nos auditeurs se posent, la jalousie est-il le signe indubitable de l'amour?
Vous pensez qu'Eric Orsenna est coach love, comme
exactement,
on dit.
Exactement, mais j'espère ressortir de cette émission.
Alors,
avec,
je vais, vous dire, quand je vais rentrer avec, devant mes enfants, mes grands-enfants, en disant « Papa, t'es un coach love, tu ne parles pas comme ça !» Mais t'as un coach. Alors là, ils vont hurler de rire parce que mon dossier est quand même pas si bon que ça.
C'est vrai ? Il y a eu des râteaux, Eric Orsenna ?
Il y a eu des râteaux, absolument. Ah, je suis fort en botanique et notamment râteaux.
Et en jalousie, vous êtes fort ou pas ?
Je suis assez fort en jalousie, c'est vrai. Assez fort en jalousie. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous dit qu'elle n'est pas jalouse du tout, c'est quand même une sorte de l'indifférence. J'ai un souvenir sur la jalousie merveilleux. J'étais marié et puis cette femme avait rencontré quelqu'un et un ami m'a dit, écoute, pour te guérir, je sais que tu es jaloux et tu as, d'ailleurs, me dit-il, salaud, tu as raison d'être jaloux.
J'ai même des photos.
Genre, oui, j'ai des photos, j'ai des adresses, j'ai des lieux, j'ai des dates et tout ça. Et dit, un amour de Swann. Et tu verras que tu es nain dans tes inventions de la jalousie. Tu es un petit, tu n'as rien du tout, tu es un Mickey dans l'invention de la douleur. Donc, lis Proust, tu verras qu'on peut être beaucoup plus malheureux que toi. Donc, fais des progrès en malheur et enfin, tu verras si tu es peut-être un petit écrivain et en tout cas un grand amoureux.
Les leçons d'amour d'Eric Orsenna qui passe l'après-midi sur Europe.
Europe 1.
À suivre, la dernière fois qu'elle avait tenté de nous sensibiliser aux émissions excessives de CO2 face au débonnaire Max Boublil, c'est un euphémisme de dire qu'elle avait échoué.
4 bras zéro allumés plein gaz, c'est l'équivalent d'un trajet en voiture de 350 km.
Pas génial comme comparaison. On cherche, c'est ni très étonnant, ni inquiétant. C'est un peu genre rien.
C'était il y a un mois. Anne Le Gall a eu le temps de trouver des exemples plus parlants. Elle revient à la charge avec notre empreinte carbone. Vous y êtes de plus en plus sensible. Selon un sondage, vous seriez même une majorité à être d'accord pour payer plus cher, pour voyager plus responsable. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
L'équipée sauvage spéciale Love continue. Oui, l'amour est partout aujourd'hui dans le studio Coluche, dans le cœur d'Eva qui vient de renvoyer un message à un ami mexicain, dans le regard d'Anne Le Gall qui me fixe lascivement en se disant que l'expression « no job in job » est vraiment un truc de ricain cucéré, et bien sûr dans le dernier roman de notre invité, plus qu'un écrivain, Anne. Une légende de la littérature française.
Il a côtoyé les monstres marins, les reptiles marins sans se faire croquer.
Oui.
Il a survécu aux différentes extinctions de masse.
Mais non.
Il a survécu aux périodes glaciaires.
Mais non, mais n'exagérez pas non plus. Les reptiles marins, enfin, il a déjà survécu à une amitié avec Mitterrand, c'est déjà pas mal. Pour ce très beau roman qui nous montre que l'amour peut renaître, même au moment où on s'y attend le moins, nous recevons Eric Orsenna. Eric, parlons sans chichi, allons droit au but. Quelle place occupent les femmes dans votre vie ? Vous y pensez ? 2 heures par jour, 3 heures par jour, 6 heures par jour ou 23 heures par jour comme moi ?
27. 27. C'est vrai que c'est le sel absolu de la vie. C'est pour ça que toutes les femmes, pour moi, sont en fond dépassantes. Donc même une femme qui a la folie de rester avec moi un certain temps, je me dis, qu'est-ce qui se passe si je ne trouve pas quelque chose ? Elle va s'en aller, elle va s'ennuyer, elle va... Donc, il paraît que je ne suis pas très paisible, mais celles qui me veulent du bien me disent que je suis plutôt intéressant. Donc quand ça s'arrête, elles sont infiniment soulagées et quelque chose me dit qu'en elles, il y a une petite part qui regrette quand même.
Vous laissez un beau souvenir. Votre roman a une part d'autobiographie, on l'a dit. Est-ce que la personne avec qui vous avez vécu cette histoire d'amour a lu le récit ? Est-ce que vous êtes auto-censuré à certains moments ?
Alors je vais vous dire que ligne après ligne... Elle a négocié.
Non. Avec son avocat.
Pas du tout, car elle connaît le français au moins aussi bien que moi, et ça a été ligne après ligne. Et c'était vraiment passionnant, parce que, figurez-vous, et ça c'est l'âge, bien sûr, vous verrez, ça va vous arriver peut-être dans 50 ans, c'est-à-dire que j'adore avoir tort, parce qu'avoir raison, ça sert à rien, puisque ça, c'est redondant par rapport à ce qu'on vivait. Alors que, je me dis, et si elle avait raison ? Donc j'étais furieux, du comment ? Mais c'est moi qui écris, je fais 60 livres et tout. Mais qui était là ? Ah ben c'était musclé. Et puis je revenais et dis, alors elle me disait pas, parce qu'elle est intelligente, elle me disait, mais elle, un petit sourire, elle voyait, tiens, il a changé. Il a changé dans les livres, parce que dans la vie on change pas, mais il a changé dans les livres.
C'est déjà ça. Eh bien cette femme, nous l'avons retrouvée, elle est là. Bonjour Anne Le Gall. Anne, on vous sent très émue. Alors bon, il est là, donc vous pouvez lui dire à cette occasion. Anne, quel est votre écrivain favori ?
Herbert Léonard.
Bien. Alors Anne, à part ça, vous allez nous parler ce soir de notre empreinte carbone. On est de plus en plus nombreux à nous insoucier au moment de partir en vacances.
On a perdu Eric Orsenna.
Qui s'en fout complètement de l'empreinte carbone. Et je crois qu'il est en train de se projeter avec vous, Anne. Je ne sais pas si ça... Il a eu une vision.
c'est la Bretagne.
De l'empreinte carbone.
C'est la Bretagne.
Visiblement, certains s'y intéressent à l'empreinte carbone. Ça,
oui,
c'est une bonne chose.
C'est ce qui ressort d'un sondage mené en France pour le site Easy Voyage. 62% des voyageurs se disent prêts à payer leurs vacances plus cher si ça permet de polluer un petit peu moins. C'est une tendance qui est encore plus marquée chez les jeunes, puisque chez les 18-34 ans, c'est les trois quarts des voyageurs qui sont prêts à faire une dépense supplémentaire pour l'environnement.
Mais alors, les Français sont prêts à payer plus cher pour voyager plus vert, mais combien sont-ils prêts à débourser en plus ? C'est toute la question.
Pour la moitié d'entre eux, c'est 100 euros en plus.
Ouais,
et
bon,
pour,
les,
pour le tiers, c'est même 200. Alors, un petit budget supplémentaire qui servira à quoi ? À faire de la compensation carbone si on prend l'avion, à choisir un mode de transport moins polluant mais peut-être plus cher, ou à choisir un hébergement qui sera par exemple labellisé comme label Clé Verte, label Européen ou la chaîne d'hôtels Au Naturel. Alors, ce sont des chiffres, on n'est pas dupes, hein, qui paraissent à l'occasion du lancement d'un comparateur de vol écolo, donc lancé par Easy Voyage. Mais c'est quand même une donnée intéressante parce que l'industrie du tourisme se porte bien, très bien même, puisque chaque seconde dans le monde, il y a 18 personnes qui partent en vacances. Donc, à la fin de ma chronique, il y aura 2000 personnes qui auront bouclé leurs valises et qui partiront en vacances.
Je suis jaloux.
Les voyages représentent 8% des émissions mondiales de CO2 et ça va croître. On parle de la honte de prendre l'avion. Mmh. C'est un phénomène qui est quand même marqué essentiellement en Suède.
Le Flixgam.
Exactement. Alors, dans ce pays, c'est vrai qu'il y a entre 3 et 4% du nombre de passagers qui a diminué. Mais c'est vraiment une exception. On va quand même vers une croissance du marché de l'aérien. On dit que Airbus va doubler sa flotte d'ici 2040. Donc savoir que les passagers se préoccupent quand même un petit peu de leur empreinte carbone, c'est intéressant.
Comment fonctionne ce comparateur de vol écolo lancé par Easy Voyage ?
Alors, vous cherchez un vol. Ce comparateur vous donne, en plus du prix et de la durée du vol, le poids carbone de chaque vol. Donc, j'ai pris un exemple. Par exemple, si on veut partir à New York samedi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le vol le plus cher qui est le moins polluant. Là,
d'accord,
on a un exemple. Le premier prix, c'est 253 euros. Mais le poids carbone de ce vol est 25% plus élevé que le poids carbone du vol le moins polluant, qui est en fait un vol direct. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut retenir.
Bah oui, il faut privilégier
les vols
directs. Il faut
prendre les vols sans escale. Il n'y a pas de secret. Alors, en plus, comme les vols sans escale sont les plus rapides, en général, c'est intéressant. Alors, utile ou pas ce comparateur, si on fait preuve de bon sens, on ne sera pas obligé de passer par là. Il suffit vraiment de regarder le nombre d'escales. Et puis, c'est du bon sens. On peut aussi se dire que pour voyager, alors ça ne marche pas à tous les coups, mais il y a aussi le train. Et le train, il faut se souvenir que c'est quand même une empreinte carbone.
Oui, mais enfin, le train,
10 fois
si
plus faible que celle de l'avion. Et le train, oui, c'est plus lent, ça ne marche pas en ce moment, mais c'est aussi plus romantique.
Ah.
Et puis le voyage démarre plus tôt. Il y a même des livres maintenant sur la lenteur du train. Là, j'ai un livre qui s'appelle Slow Train.
Il est formidable.
C'est un livre pour vous inciter à partir en week-end en France en train. Et ça fait rêver.
Alors, merci Anne Le Gall. Éric Orsenna, je suis sûr qu'Anne Le Gall, par sa présence, sa grâce et sa compétence, inspire un mot à l'académicien.
Ah, j'en ai connu des femmes et des séduisantes, mais jamais dotées d'un tel châssis.
Auditrice, auditeur, accrochons-nous car le quiz arrive. Il opposera comme chaque jour Eva Rock à notre invité. Et je préfère vous prévenir, Éric Orsenna. Vous pensez peut-être qu'avoir fait des études de philosophie, de sciences économiques, qu'avoir été le conseiller d'un président de la République et qu'avoir été pris à l'Académie française vous place au-dessus intellectuellement d'Eva. Attention, elle a un message pour vous.
J'ai fait de plus grandes études que Simone de Beauvoir.
Eh oui, tout en s'occupant de sa belle-mère et la fille Gérald qui commençait à décliner. A tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, vous écoutez l'équipe est sauvage, ou plutôt aujourd'hui, l'équipe est romantique. Puisque nous lisons Les yeux embués de larmes, le dernier roman d'Éric Orsenna, notre invité, brisé en nous, la mer gelée. Alors, beaucoup de femmes dans votre vie ont dû avoir envie de briser la glace avec vous, Éric.
Ah ouais ?
Encore aujourd'hui, visiblement. Est-ce qu'un jour, on est guéri de l'amour ? Moi, j'espérais ça. Visiblement, d'après notre discussion depuis le début de l'émission, c'est pas le cas. On ne guérit jamais de l'amour. Il n'y a pas un jour... Parce que c'est quand même pas enviable comme situation. On ne s'appartient plus quand on est amoureux.
Eh bien, c'est une bonne nouvelle quand on s'ennuie avec soi-même. Vous savez, c'est l'histoire qui m'a tellement frappé et qui est arrivée à un certain nombre de gens, mais notamment à mon père. Mon père était un beau mec. C'est-à-dire, il y a eu un vrai déclin génétique depuis, et c'était un beau mec. Et il avait 86 ans, c'était 2 ans avant sa mort, et j'étais avec lui à une terrasse de café. Et une femme passe, vous savez, comme une passante, comme on dit dans Baudelaire, sous le vent, balançant le feston et l'ourlet, elle passe. Il lui sourit, Elle répond à son sourire. Et j'entends mon fou de père dire « Ah, si j'avais encore 80 ans
!» Génial.
Donc, il y a peut-être un truc génétique là-dedans.
Alors, tout à l'heure, Eric Orsenna, on connaît votre érudition, vous nous parliez, vous citiez Proust. Vous avez commencé par Tintin, plus modestement.
Mais pas plus modestement, c'est Tintin qui m'a donné envie, clairement, de voir la planète. Puisque nous, on habitait Paris, au coin du Boulevard Pasteur et la Haute-Vaugirard, et puis en allant en Bretagne, c'est là où ma passion absolue pour la Bretagne est née.
Ah, j'ai cru pour Anne Le Gall, d'accord, mais pas pour la Bretagne.
Écoutez, on parlera de ça un petit peu plus tard, parce que je suis entendu.
Ah oui, c'est vrai, vous avez raison.
Et je suis marié.
Oui. Ne chipotez pas. Hein.
Ce qui n'est pas contradictoire. On peut être marié et entendu. Et donc voilà. Et donc voilà.
On parlait de Tintin, elle, ça serait plutôt la Castafiore. Face à vous, Eric Orsenna, celle qu'en interne on appelle The Brain. Chaque jour, Eva Rock met au défi l'invité de la base sur un questionnaire de culture générale. Voici notre célèbre quiz. Vous êtes prête, Eva ?
Non.
Parfait. Eric Orsenna, c'est pas tous les jours que nous recevons dans l'émission un membre de l'Académie française. Par contre, c'est tous les jours qu'à mes côtés, nous avons la présence d'une personne qui a déclaré avoir fait plus d'études que Simone de Beauvoir. C'est pourquoi nous allons à présent faire un duel sur la langue française. Eva Rock, oui. Que désigne l'adjectif nullipare ?
Nullipare ?
1. Une femme qui n'a jamais accouché. 2. Une action qui n'a jamais existé, ni même été pensée. Ou 3. Une personne qui s'est mise nue, mais pas assez longtemps pour qu'on puisse se rincer l'œil.
Est-ce que vous avez le droit de me...
De vous donner la réponse ? Non, vous devez choisir parmi ces trois propositions.
De m'épeler le mot ou pas ?
Nullipare. Nullipare.
J'aurais dit la 2.
Vous auriez dit une action qui n'a jamais existé. Pas du tout. C'est une femme qui n'a jamais accouché ou en zoologie, une femelle qui n'a pas encore porté. Vous coucherez moins bête.
Ce qui est un mot absolument scandaleux.
Scandaleux, oui, qui devrait être banni.
Mais attends, il va être... Alors, le problème, c'est qu'on est un peu lent à l'académie puisqu'on est à la lettre V. Donc, le temps qu'on revienne à N, en dépit de mon immortalité, il y aura au moins 5 personnes qui se sont succédées sur mon fauteuil. Mais dès maintenant, je vais faire une... Voilà, parce qu'il y a les gilets jaunes et il y aura les habits verts et qui vont prendre... Vraiment, c'est une honte nullipare. Mais ça veut dire que si on n'a pas, pas fait d'enfant, enfin fabriqué d'enfant, on est nul.
Ouais.
Et non avenu. C'est des mots... Il y a des mots qui sont terribles parce qu'il y a des mots qui vous assignent à résidence, vous condamnent pour toujours.
Bah heureusement,
c'est
là,
une horreur.
Nullipare, on ne l'entend pas souvent.
Mais j'ai droit à un point.
Mais vous n'avez droit à rien du tout.
Si,
non, zéro point.
Si, non, ouais.
Eric Orsenna.
Oui,
qu'est-ce qu'une fontaine ubérale ? 1. Une fontaine qui n'a jamais cessé de fonctionner. 2. Une fontaine à laquelle on ne peut boire que si on a un compte Uber. Ou 3. Une fontaine où l'eau coule des seins de sculptures féminines.
Alors là, franchement...
Ah, je vous colle !
Mais j'aimerais que vous me la présentiez, surtout, cette fontaine.
Donc vous avez quelque part donné la réponse. Puisque c'est une fontaine dont les sculptures féminines voient de l'eau jaillir de la pointe des seins. Uber, en latin, mamelle. Vous y penserez quand vous commanderez sur Uber Eats. Eva Rock, Eric Orsenna, d'où vient le mot baragouiné ? 1. Du fait que quand on a bu, on ne comprend plus ce qu'on dit. 2. Des Bretons, dont le patois était incompréhensible, faut dire ce qui est. Ou 3. D'un établissement réservé aux femmes, ce qui était incompréhensible pour les hommes.
Alors attendez, d'abord je m'insurge, ce n'est pas un patois, c'est une langue. Après, continuez votre émission, s'il vous plaît.
Ah ben moi,
continuez
je dis
votre émission, s'il vous plaît.
Vous dites la réponse 2.
Oui.
Et Eric, vous dites aussi la réponse 2.
Bah attendez, évidemment.
Oui, parce que vous connaissez la réponse.
Bah,
en fait,
évidemment,
contrairement à Eva qui dit comme vous, parce que bref.
Évidemment.
Et oui, ça vient du breton.
La belle langue bretonne. Nous ne sommes pas nombreux, pas tout nombreux en fait. Nous ne sommes que deux à l'Académie française à aimer les langues, à respecter les langues régionales. Il y a Barbara Cassin qui vient d'être élue, qui a fait un discours absolument magnifique en disant que les langues, c'est la diversité, c'est les langues, c'est pas une seule langue. Et le français n'a pas le monopole pour exprimer le monde.
Alors le breton et baragouiné.
Moi je défends Diwan.
Vous êtes capable de nous dire baragouiné, d'où ça vient, ce que ça veut dire?
Oui, le vin et le vin, bien sûr.
Le pain.
Le pain et le vin.
Et le vin.
Et le vin.
Bara,
bah bien sûr.
Le pain
bara,
et vin. Gouiné.
Voilà.
Ça a donné baragouiné.
Baragouiné.
J'aimais déjà
du pain
ce
et
mot,
du vin.
Je l'aime encore plus.
Vous l'aimez encore plus.
Ouais.
Effectivement.
Ouais.
Eric Orsenna, un amélanchier. C'est l'ancêtre de la brosse à chiottes, un très bel arbuste d'Amérique du Nord ou une personne qui n'a jamais voté pour Jean-Luc Mélenchon.
Eh bien, c'est le numéro 2. C'est un très, très bel petit arbuste qui donne, en plein milieu de l'hiver, des petites fleurs jaunes qui donnent une sorte d'annonce du printemps.
Et bien, comme quoi, l'Académie française, c'est pas bidon, hein.
Ouais.
Eva Rock.
Ah bah non, je vais pas jouer,
attention,
là.
Attention, parce que là, on monte en gamme.
Ah bon,
on monte en poésie.
Oui.
On atteint les cimes de la poésie française et baroque une branlette. Ce n'est pas qu'une pratique solitaire bien connue, c'est aussi une technique de pêche très en mouvement, un ancien ustensile de cuisine pour sécher la salade.
J'ai droit qu'à deux possibilités.
Oui, bah c'est mieux en fait. Moins vous avez de possibilités, plus vous avez de chances de gagner.
Eh bien, je penserais bien à la salade.
Vous penserez... Eh bien, c'est une mauvaise réponse, Eva.
Évidemment.
C'est une technique de pêche,
évidemment,
où l'on donne un mouvement continuel
c'était
à l'amorce de la ligne.
Blague.
Qui n'est pas effectivement, sans rappeler, une autre pratique. Qui remporte ce quiz ? Oh, Eric Orsena qui triomphe des baroques dans un questionnaire portant sur le français. Si on me l'aurait dit, j'aurais pas cru. À suivre, vous connaissez peut-être le truculent président du club de rugby de Toulon. Sa stratégie ayant payé pour le rugby.
Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux. Et c'est souvent dans la gueule.
Mourad Boudjelal s'attaque maintenant au foot. Il veut racheter le club de la ville. Notre correspondant dans le sud nous raconte juste après Daft Punk, One More Time sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission où jadis on aimait à rire, où l'on se permettait de rire fort sans se sentir jugé. Ce temps est révolu puisque visiblement mon rire indispose certaines personnes autour de cette table, certaines personnes qui sont pourtant là parce que j'ai proposé leur nom. Bref, c'est immonde.
Il faut que vous changiez de rire absolument.
Vous savez ce que je vais faire, Eva ? Je vais vous envoyer en stage chez Mourad Boudjelal. Vous connaissez Mourad Boudjelal ?
Il
va vous remettre d'équerre. Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant dans le sud-est de la France. Mourad Boudjelal, le président du rugby club toulonnais, pourrait se lancer donc dans un nouveau défi. Passer du ballon ovale au ballon rond. L'emblématique patron du RCT envisage très sérieusement de reprendre le club de foot de sa ville. Le Sporting Club de Toulon, dernier du championnat national, faut-il le préciser.
Oui, c'est bien ça, j'ai un rêve fou, voir Toulon en Ligue 1. Voilà l'ambition de Mourad Boudjelal, qui ne cache plus son appétit pour le Sporting, le club de football de sa ville. Mais il y a un hic pour le moment, le propriétaire, l'actionnaire principal n'est pas vendeur, mais le patron du RCT, lui, est habitué aux missions insensées et frappe à dingue, c'est lui qui le dit. Et après avoir fait fortune avec une toute petite maison d'édition qui va faire grandir et fructifier, je vous rappelle que c'est lui, Rahan, cas l'éditeur de la BD Rahan, Mourad Boudjelal s'impose dans le monde de l'Ovalie avec le succès que l'on connaît aujourd'hui alors qu'il se prépare à quitter le RCT. C'est le foot qui l'attire, il se souvient enfant, c'était au milieu des années 70 de Toulon qui s'imposait face à Monaco, à Marseille. Il veut revivre ses soirées magiques et damer le pion à l'OM. Imaginez...
Oui, doucement Frédéric Michel, c'est mon club de cœur.
Imaginez un derby Toulon-Marseille, Mathieu.
Oui, j'imagine très bien.
Car on en est loin encore. Dernier de national, le Sporting pourrait être relégué à la fin de la saison. Peu importe, Mourad Boudjelal espère trouver un accord avec l'actuel actionnaire et séduire les supporters.
Je vais essayer d'être le plus convaincant possible avec le président, d'avoir l'adhésion des Toulonnais, parce que ce n'est pas une histoire qu'on peut écrire tout seul, mais ça peut être une très belle histoire. Et puis là, je crois que pour tous les Barrois, ils sont au début de la première lettre du roman. Donc c'est un roman dans lequel ils peuvent s'inscrire dès le début.
Et à Toulon, Frédéric, on en pense quoi en fait de ça ?
Toulon, évidemment, ça fait jaser. Alors, Mourad Boudjelal l'a dit, il veut rencontrer les supporters de football. Le maire Hubert Falco, lui, ne veut pas jouer les arbitres, mais l'idée ne lui déplaît pas. À partir du moment où un terrain d'entente est trouvé, pas question en tout cas pour Mourad Boudjelal de partager le pouvoir. Il veut être seul aux manettes. Cela fait 27 ans que Toulon a quitté l'élite, la Ligue 1, la première division, comme on le disait à votre époque, Mathieu. Et l'emblématique président
du
RCT, lui, veut aller très vite. Ça communication est d'ailleurs très maligne. Racheter le Sporting, c'est aussi pour se racheter. Il amorce un mea culpa, explique vouloir réparer les dégâts qu'il aurait pu causer en 14 ans d'hégémonie à la tête du RCT et donc sur tous les autres clubs de la ville. À Toulon, il n'y en avait que pour le rugby. J'étais comme Attila, a-t-il dit. Je me sens donc un peu responsable. Et c'est vrai que Toulon, dans l'élite du football, ça rappellerait des souvenirs. Allez, tiens. Un petit quiz pour toute l'équipe, vous n'êtes pas à 11, mais vous êtes quand même la Dream Team d'Europe 1. Alors, est-ce que vous pouvez me citer des grands footballeurs qui ont joué à Toulon ? Allez, on va voir.
J'ai aucune idée. Je sais que Zidane est passé par Cannes, mais pas par Toulon. Ouais.
Non, mais non,
j'ai
Mathieu,
aucune idée.
Vous qui êtes supporter de l'OM.
Il y a des grands joueurs de l'OM qui sont passés par Toulon ?
Papin ?
Non.
On va arrêter. Donc, allez. Cazoni.
Ah bon ?
Ah ouais ?
Mendy, Pardo.
Ah ouais, quand même.
Pascal Olmeta.
Non !
Non, mais Pascal Olmeta, gardien historique.
Vous nous apprenez quelque chose, Frédéric Michel.
Et puis Gentilgana. Non, mais vous me décevez.
Mais écoutez,
on se rattrapera la prochaine fois.
On se rattrapera la prochaine fois, Frédéric. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Europe 1.
Quatre journalistes assoiffés de victoire, une seule couronne, telle est l'équation vicieuse de l'équipée sauvage. Sorte de Koh-Lanta habillé. À la fin, comme disait Denis Brognard, il n'en restera qu'un. Une deuxième heure se profile, toujours en compagnie de notre invité d'honneur, Éric Orsenna, qui, je l'espère, sera moins cassant avec moi que le grand chef Olivier Rollinger hier. Il m'a pas loupé, lui.
Mais en fait, il faut que quelqu'un montre ça. Les gens, ils y croient pas que ça prend pas du temps. Moi, franchement, avant, j'étais un peu sceptique. Ma compagne, elle cuisine tout le temps. Et en fait, à une vitesse, elle fait des trucs. Je lui dis, mais tu vas pas faire ça maintenant pour. Enfin, c'est dans 15 minutes.
Ouais, ce serait bien que de temps en temps, vous le fassiez aussi.
Ah non, moi, j'ai autre chose à foutre. Ah, dis donc, Rollinger. Oui, j'ai autre chose à foutre, moi.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
Pichenette dans l'escalier. Forlax dans le café. Si l'homme est un loup pour l'homme, c'est encore plus vrai pour les journalistes. Chaque après-midi, afin de vous permettre de combiner détente, bonne humeur et découverte, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent à coups de chronique. Enfin, quand je dis les meilleurs, c'est évidemment façon de parler, parce qu'en ce moment, avec les grèves, faut pas être trop difficile. Dès qu'un journaliste habite sur la 1 ou la 14, les seules lignes de métro qui fonctionnent à peu près normalement, on prend. Hier, par exemple, on avait Axel de Tarlé, notre expert économie, qui sortait d'une formation qui avait visiblement été très efficace.
Lundi dernier, il y avait une formation corruption à Europe 1.
Non, anti-corruption.
Anti-corruption.
Alors, ne désespérez pas, Éric Orsenna, deux nouveaux concurrents vont nous rejoindre pour la deuxième heure de l'équipée sauvage, peut-être meilleur qu'Axel. Oh. Il est 17h sur Europe 1. L'heure du flash avec vous, Marguerite Lefebvre.
C'est une déclaration qui va à coup sûr raviver la colère des cheminots. Alors que certains manifestent cet après-midi pour défendre leur régime spécial, le patron de la SNCF annonce de son côté la mise en place prochaine d'un plan d'économie dans la compagnie. Selon Jean-Pierre Farandou, le coût de la grève devrait avoisiner le milliard d'euros. Il va falloir rétablir les comptes de la SNCF. Un plan d'économie pourrait donc être annoncé dès le mois prochain. Il ne devrait cependant pas toucher l'emploi sur le terrain. Cette annonce intervient en pleine journée de mobilisation nationale avec une participation qui semble s'essouffler. À Paris, la CGT annonce 250 000 manifestants. Selon la CGT, ils étaient 370 000 lors de la dernière manif jeudi dernier. Participation en baisse, mais le mouvement de grève se poursuit. La France vivra demain sa 44e journée de grève. À la SNCF, le trafic des TGV sera quasi normal. En revanche, il n'y aura que 8 TER sur 10 et 3 Transiliens sur 4. Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise. Marine Le Pen annonce cet après-midi sa candidature à la prochaine présidentielle. C'est en 2022, dans 2 ans et demi, mais la présidente du Rassemblement national veut éviter l'improvisation et se préparer. Cette candidature sera toutefois étudiée par le Congrès du parti pour validation l'an prochain. La politique plus près de nous, ce sont les municipales. À Paris, on compte une candidature de moins depuis aujourd'hui. Pierre-Yves Bournazel du parti Agir se retire et fait désormais campagne derrière Benjamin Griveaux. Il sera tête de liste LREM dans le 18e arrondissement de Paris. Christophe Ruggia est mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. C'est l'affaire Adèle Haenel. Le réalisateur a été présenté à un juge d'instruction. Il est donc mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. À Nîmes, un meurtrier vient d'être libéré pour des erreurs de procédure. Cet homme a tué son ex-femme d'une balle dans la tête en 2013. Il a été condamné à 30 ans de prison ferme, mais son procès en appel intervient trop tard, au-delà du délai de 2 ans autorisé par la loi. Cet homme a donc demandé sa remise en liberté pour vice de procédure. Il vient de l'obtenir. Peut-être un cessez-le-feu à venir en Libye. Le maréchal Haftar, qui jusqu'à présent refusait de signer la moindre trêve, se dit prêt aujourd'hui à ne plus faire usage des armes. La guerre civile en Libye, qui oppose le maréchal Haftar au régime de Tripoli, sera au centre d'une conférence internationale organisée dimanche prochain à Berlin. Le Canada somme l'Iran d'apporter des réponses. Une semaine après le crash du Boeing d'Ukraine Airlines, l'avion a été abattu par erreur par un missile iranien. 176 personnes sont mortes, dont 63 Canadiens. Le monde attend des réponses selon Ottawa. En biathlon, il est plus que jamais leader de la Coupe du Monde. Martin Fourcade a conforté son dossard jaune en remportant tout à l'heure le sprint de Ruhpolding en Allemagne. C'est sa 80e victoire en carrière. Et derrière lui, c'est un tir groupé de l'équipe de France. Quentin Fillon-Maillet est deuxième. Simon Destieux et Fabien Claude, cinquième ex aequo. Enfin en football, il y aura la Coupe de France ce soir, 16e de finale. Pau, club de national, reçoit Bordeaux. Début du match à 20h55.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il est 16h03, excellente fin de journée à l'écoute d'Europe 1, c'est le retour de Mathieu Noël.
Europe 1. 16h-18h. L'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage et c'est reparti pour une nouvelle heure au galop sur la plaine somptueuse du Savoie. Chevauchant à mes côtés la douce et précieuse Eva Rock, ainsi qu'un invité d'honneur généralement très sympathique, comme hier le chef Olivier Rollinger, qui a réussi à redonner l'envie de cuisiner à Eva.
Demain, je fais un crumble framboise.
Oui, mais c'est pas la saison.
Aujourd'hui, espérons qu'Éric Orsenna soit moins cassant avec la pauvrine. Éric Orsenna, ensemble, on continue de parler de votre nouveau roman « Brisé en nous, la mer gelée », un livre qui, il faut le dire, n'est pas climato-sceptique, hein, ça n'a rien à voir, c'est un livre qui parle d'amour et pas de réchauffement climatique. On continue d'en parler et plus sérieusement, juste le temps de vous présenter, Éric Orsenna, nos deux derniers concurrents pour le titre de chroniqueur du jour. Par ordre de sex-appeal croissant, à ma gauche, il est notre expert sport, mais aussi un grand amoureux de littérature. D'ailleurs, dans chacune de ses chroniques, il offre à l'oreille attentive de subtils jeux de mots.
Kimia Alizadeh, elle a quitté l'Iran parce qu'elle refuse désormais de représenter son pays aux prochains Jeux Olympiques. Elle a eu de la fuite dans les idées.
Bonjour Jérôme Lacroix. Cette
bonjour
passion
monsieur.
Des
c'est
mots,
très joli.
Vous allez la partager avec nous aujourd'hui. En combien il estime même que c'était pas trop mal. Bon. Je ne sais pas si c'est à vous de le dire. Aujourd'hui, vous combinez sport et langue française. Comment?
Alors, bah, tenez quelques exemples. Bille en tête, épater la galerie, jeter l'éponge. Il y a un point commun à ces expressions très
qui
courantes de notre langue française. Elles viennent toutes du monde du sport. Elles sont originaires du monde du sport. Je vous propose de vous raconter quelques-unes de ces expressions. Comment le sport a permis à notre langue française de fleurir.
Et puis surtout, on va pouvoir briller dans les dîners. Moi, j'aime bien raconter l'origine des expressions.
Ça, c'est
à ses côtés, Éric Orsenna, plus qu'une femme, une rescapée. En effet, notre nouvelle chroniqueuse, la vétérinaire Farah Kessri, que nous sommes ravis d'accueillir, revient de très loin. Elle revient de là où, normalement, on ne revient pas. Elle a coécrit un livre avec Michel Simès. Or, comment expliquer ça à quelqu'un qui ne connaîtrait pas Michel Simès? Eh bien, le mieux, c'est de réécouter un extrait de la fois où vous étiez venus tous les deux parler de votre livre.
Quand on voit ce que les vétos font aux vaches, j'aimerais pas me faire examiner la prostate par un vétérinaire.
Je suis sûre que je suis plus délicate que vous pour un toucher rectal. Hein.
Eh ben, faudrait qu'on essaye.
Chiche.
Bonjour Farah Kessri.
Bonjour à tous.
Les téléspectateurs du Journal de la Santé sur France 5 vous connaissent bien. Vous rejoignez donc la bande de l'équipée sauvage. Alors attention, ici vous êtes en compétition. Avec quel sujet allez-vous tenter de l'emporter pour votre toute première participation?
Eh bien, je vais vous parler de l'incroyable ingéniosité des espèces animales et leur capacité à survivre à des températures extrêmes. Et vous allez voir, c'est vraiment extrêmement malin.
Comment les animaux font-ils pour ne pas avoir glagla? Mais j'aime bien utiliser les termes techniques.
Glagla.
Ces expressions françaises qui viennent du monde du sport, qui coiffera l'autre au poteau? La réponse tombera juste avant 18h, vous votez via Twitter. En attendant, je me tourne vers notre invité d'honneur. Qui est pour vous Éric Orsenna? On est allé vous poser la question. Voici non pas un micro-trottoir, toujours monté pour flatter l'invité. Non, ici nos invités ont droit à un micro-trottrash. C'est pareil, mais en moins cher, on n'a pas payé de monteur, on a tout laissé en vrac.
Éric Orsenna. Ah, il est connu, lui, c'est qui déjà? Un académicien.
Je trouve que c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir beaucoup de bonté dans les yeux.
Il est brun, il est pas mal. Un que je trouvais beau, c'était Dormesson.
Très curieux, très classique, très belle plume.
Très centriste.
Hein. Je fais de la politique, moi je fais un littéraire.
Éric Orsenna.
C'est quelqu'un qui a du talent.
Ancien conseiller politique de François Mitterrand.
Eh bien Orsenna, il pilote de Formule 1.
Il est... Alors, Orsenna n'est pas encore mort, mais Ayrton Senna est mort, lui.
C'est un écrivain qui écrit très bien. Il avait écrit une histoire d'amour avec la grammaire.
Très gentil, très aimable, très bien éduqué, très serviable.
Il a une espèce de couronne de cheveux blancs et il a des lunettes écailles.
Très agréable, ça j'en suis sûre.
Beaucoup d'infos hein, dans ce micro-trottrash.
Voilà, vous Éric avez Orsenna, été coureur automobile,
très
je
sympa,
le savais
ouais, très centriste et champion de Formule 1. Ça, c'est vrai que, bon, on jette un voile pudique sur cette partie de votre carrière. Vous êtes aussi entrepreneur, Éric Orsenna. Vous avez notamment investi dans des start-up liées au développement durable. Vous avez été aussi conseiller de François Mitterrand, ça les gens s'en souviennent. Est-ce que la politique reste une part importante de votre vie?
La politique, pas en tant que métier, mais en tant que
citoyen,
comme passion, en tant que lieu où il faut proposer des solutions. Donc je suis par exemple allié avec les maires de France, parce que dans des tas de villes, on propose des tas de choses.
Et puis ils peuvent agir concrètement au niveau local.
C'est quand on me confie une mission, j'essaye de la remplir le mieux possible, par exemple en ouvrant plus les bibliothèques et les médiathèques.
Oui, on va en parler, ça.
Voilà, mais je n'ai pas voulu exercer un rôle de responsabilité comme ministre, parce que je...
On vous l'a proposé, vous l'a proposé
souvent,
la culture
mais, souvent, pas seulement la culture, mais souvent, mais je ne serais pas... je ne serais pas bon parce que je veux garder ma liberté, ce qui est un manque de générosité aussi. et que si je peux être très, très impliqué dans une action, au bout d'un moment, j'ai envie de partir, de naviguer, d'avoir cette liberté. Vous voyez, donc,
si je peux me permettre, vous me rappelez Nicolas Hulot, avant de dire oui. Pendant des années, il a dit non, je ne veux pas, parce que je veux garder ma liberté. Et un jour, il a fini par se dire, il faut que je mette les mains dans le cambouis, j'y vais. On sait ce qui s'est passé après.
Oui, mais justement, j'ai pensé exactement la même chose, vous voyez.
Nos chroniqueurs ont tous lu et adoré son dernier roman, surtout Jérôme Lacroix, qui m'a avoué l'avoir dévoré.
Accompagné de pâtés, de vin blanc, de crevettes.
Éric Orsenna est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, Paris Hilton, malgré toutes ses qualités, a-t-elle raison de mettre une doudoune Dolce Gabbana en plume d'oie à Elvis, son teckel nain? Ou bien les animaux n'ont-ils pas besoin de doudoune Dolce Gabbana pour affronter les frimas de l'hiver? La vétérinaire Farah Kasri nous dévoile la biologie étonnante des animaux. Eva, un commentaire constructif à ce stade?
Un chat te juge, un chien te fait la fête.
Merci quand même.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Fermez les yeux et imaginez Éric Orsenna galopant à bride rabattue avec Eva Rock derrière lui en Amazon qui s'exclame. Bienvenue dans l'Équipée Sauvage. 2 heures dédiées à votre bonne humeur et à votre culture générale. En présence d'un invité d'honneur aujourd'hui, donc l'immense Éric Orsenna. Éric, on continue de parler de votre nouveau roman « Briser en nous la mer gelée ». Mais vous le savez, la compétition n'attend pas. L'heure est venue d'écouter notre troisième candidate à la couronne de chroniqueur du jour, une amoureuse de la nature, des animaux, une vétérinaire qui a tout de suite compris en écoutant notre émission avec Clovis Cornillac l'autre jour, Clovis qui incarnait justement un veto dans un film, qu'elle et nous, on était sur la même longueur d'onde, celle du respect du vivant et de la tendresse pour l'animal, souvenez-vous.
Elle est dingue la scène du volage.
Ouais, elle est très belle.
Parce que
elle l'a vraiment fait, ouais.
Elle a vraiment fait.
Ouais, il y avait une véleuse à côté,
oui, ça, bien,
mais il n'empêche qu'elle le fait vraiment, ouais. Ah ouais, elle lutte, et puis c'est vrai, elle l'a vraiment accouché, ça fait que le veau, c'est le premier regard qu'il a eu, c'est sur elle.
Et elle l'a gardé ?
Non, mais il était délicieux, et c'est vrai qu'elle
a... Et oui, Farah, ici, on adore les animaux, surtout avec une pincée de gros sel. Et aujourd'hui, vous nous parlez de ces facultés étonnantes qu'ont les animaux pour se protéger du froid. Ils ont tout simplement plus de poils que nous, non ? C'est pas compliqué.
Oui, c'est vrai, ça fait partie de leur stratégie. Et c'est vrai que si l'homme a conquis tous les écosystèmes, ce sont quand même les espèces polaires qui sont les championnes pour résister aux températures extrêmes. Je vous rappelle qu'au niveau des pôles, les températures peuvent chuter jusqu'à moins 40 degrés, moins 50 en hiver. Et vous avez des vents qui vont souffler à 100, 200 km/h. Et bien, pour résister et survivre, il faut vraiment avoir des bonnes stratégies.
Et c'est quoi comme stratégie ?
Et bien, si on prend l'exemple des manchots, les manchots empereurs qui sont plutôt connus par le grand public, eh bien, eux, ils vont pratiquer la thermorégulation sociale. Qu'est-ce que c'est ? C'est simplement le fait de se tenir au chaud en restant groupés. Et c'est efficace.
C'est ce qu'on fait dans l'équipe sauvage.
Absolument, absolument. Mais eux, c'est encore plus efficace puisque à l'intérieur du groupe, vous allez avoir des températures qui vont atteindre 35 degrés, alors qu'à l'extérieur du cercle, vous êtes à moins 35 degrés.
Mais, qui est au centre du cercle ? Les manchots qui sont sur les bords, ils sont fait avoir.
Non, puisqu'ils intervertissent leur place, c'est à tour de rôle, chacun pense à l'autre. Donc ça marche très très bien. Et bien sûr, vous avez parlé du pelage, mais là pour les oiseaux, parce que ce sont des oiseaux, les manchots, vous avez une couche de graisse qui va servir d'énergie, et vous avez bien sûr toutes les plumes qui vont s'entrelacer et former un isolant thermique. Mais leur super astuce se trouve au niveau des pattes. Ils ont un radiateur, une sorte de radiateur, c'est pas vraiment le radiateur électrique que vous imaginez, bien sûr, c'est un échangeur de chaleur entre les artères et les veines, et ça leur permet d'avoir toujours 2 degrés de température supplémentaire par rapport à l'extérieur. Et c'est très important d'avoir chaud aux pattes quand on est un manchot, parce que c'est le
phrase,
papa...
Pas. C'est vrai que je vais vous la sortir celle-là.
Je sais. Parce que le papa manchot, c'est lui
le
qui
papa
couve...
manchot, le papa manchot, c'est, une
c'est
ça.
Lui qui va couver l'œuf pendant que la femelle est partie reprendre des forces.
Farah, vous êtes partie sur des très bonnes bases dans cette chronique. La grenouille des bois de l'Alaska qui gèle en hiver.
Absolument, les 2/3 de l'eau de son corps se transforment en glace. Et contrairement à d'autres espèces qui, tout simplement, vont mourir à cause du gel, parce que vous savez, ce sont la glace, quand l'eau se transforme en glace, il y a la formation de cristaux. Les cristaux, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement plein de pics qui vont aller détruire la cellule. Elles vont l'exploser. Eh bien, cette grenouille, au lieu de mourir explosée par tous ces cristaux, elle va produire 5 fois plus de glucose, et ce sucre va servir
d'antigel va protéger toutes les cellules de son corps.
Elle n'a pas de diabète.
Elle n'a pas de diabète parce qu'elle a un super système de régulation contrairement au nôtre. Et en plus, à la fin de l'hiver, au printemps, la glace va fondre, l'eau va réhydrater les cellules, la température va remonter, le glucose va être à nouveau disponible et ce glucose, ce sucre va servir d'énergie parce que je vous rappelle qu'à la saison le printemps, c'est la saison des amours et elle a intérêt à sauter partout. Si je peux le dire.
C'est vrai. Et il y a des espèces qui hibernent, comme les ours.
Absolument. Alors, sur les 8 espèces d'ours, vous avez seul l'ours noir, l'ours brun et la femelle ours blanc qui vont hiberner. Et ce n'est pas vraiment le terme hiberner. On utilise plutôt le terme hiverner parce que c'est la marmotte qui hiberne. Sa température tombe de 38 degrés à 5 degrés. Alors que les ours passent de 38 à 32 degrés environ. Ils ont besoin de garder un seuil de vigilance au cas où il y aurait du danger. Et au moment où ils vont donc hiverner, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils vont se mettre dans leur tanière, se rouler en boule pour garder la chaleur. Qu'est-ce qui se passe aussi ? Eh bien, ils vont arrêter de manger, ils vont arrêter de boire, ils ne vont plus uriner, ils ne vont plus déféquer. Leur transit intestinal s'arrête pratiquement.
Il y a un bouchon. C'est hibernatus, quoi.
Exactement. Il y a un bouchon fécal qui est à l'extrémité du rectum pour que, bien sûr, leur tanière reste propre. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que leurs battements cardiaques vont ralentir. Ils passent de 60 battements par minute à 8 battements. Leur respiration est divisée par deux. Tout se ralentit, consomme moins d'oxygène. Et ce qui est extraordinaire, ce qui fascine les chercheurs, c'est que tout simplement, on se demande comment ils font. Parce que si on arrive à les copier, eh bien, on pourra peut-être envoyer des astronautes dans les voyages interplanétaires.
Bah oui, exactement, dans les films de science-fiction, on voit déjà ça.
Ils perdent pas d'os, ils perdent pas de muscles, ils n'ont pas de problème de cholestérol alors qu'ils ont mangé comme des malades juste avant d'entrer en hibernation. C'est quand même hallucinant.
Eh bien, et le seul d'entre nous qui connaîtra ça, puisqu'il est immortel, c'est Eric Orsenna. Le voyage sur Mars, nous, hélas, on ne sera plus là.
Mais vous avez vu un ours en Alaska.
C'est magnifique. Ah ben, j'ai vu plein d'ours, parce que j'ai fait beaucoup de voyages en Arctique, parce que je vous rappelle que Arctique, ça vient du grec arctos, qui veut dire ours, et Antarctique, c'est l'endroit où il n'y a pas d'ours. Donc, il y a des ours, vous comprenez. Et donc, moi, j'ai vu ça, et j'ai eu un professeur d'ours, qui est Marie Manceau, chercheuse au Collège de France, qui m'a raconté des trucs incroyables, exactement ce que vous dites. Par exemple, la vraie couleur de l'ours blanc.
Ah, on avait prévu d'en parler.
Pourquoi les noirs ?
Oui, parce que la couleur de l'ours blanc, à votre avis, de la peau de l'ours blanc, bah, elle n'est pas blanche.
Ah, bah non.
Comme
non,
vient de dire exactement. Eric Orsenna, elle est noire.
Pour capter le maximum du rayonnement. Et pourquoi l'ours blanc a une tête petite par rapport à un corps énorme ? C'est pour moins dépenser d'énergie, parce que c'est par la tête qu'on dépense énormément d'énergie.
Nous, on perd 10% de notre chaleur.
Est-ce que, la tête. Et moi qui suis chauve, je perds 50%. et pourquoi il a des pattes si grandes comme ça ? C'est pour pouvoir mieux nager et passer en répartissant son poids sur une glace qui peut être instable.
Je suis parfaitement d'accord avec vous. Bravo. Vous êtes mon héros.
Oui, bon, calmez-vous, Farah. Vous allez peut-être avoir les points, mais n'en faites pas trop non plus. Oh, merci, Farah Kessri, pour sa première chronique.
Magnifique.
Le passionnant Éric Orsenna reste avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
Afin de vous éviter, les amis, une énième dispute conjugale devant l'écran de Netflix et consorts, Eva Roff, notre spécialiste média, va vous faire ses recommandations, ce qui vous permettra d'avoir le dernier mot dans la dispute en disant à votre conjoint « Mais c'est Eva Roff qui l'a dit !» Argument massu, s'il en est. Mais tiens, Eva, puisque vous êtes spécialiste média, un mot quand même de notre émission, comment analysez-vous les bonnes audiences de l'équipe sauvage ?
Je ne comprends toujours pas l'engouement pour cette émission.
Indépendante jusqu'au bout, hein. Les conseils télé impartiaux d'Eva arrivent juste après Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez toujours l'équipe est sauvage, 2 heures d'allégresse informative pour étoffer votre culture G tout en gainant vos zygomatiques, en compagnie d'un invité d'honneur pour qui j'ai modifié mon texte ce matin. J'avais écrit « booster votre culture G », puis j'ai entendu sa petite voix qui me disait
« Tu te fous de ma gueule ? Ça va bien les conneries maintenant ?»
C'est pourquoi j'ai remplacé par le terme « étoffer ». Oui, Éric Orsenna de l'Académie française est notre invité cet après-midi. Est-ce que vous êtes très conservateur sur l'évolution de la langue française ? Les mots qui viennent de l'anglais,
la langue, elle est vivante.
Ah donc, vous acceptez plutôt ?
Oui, bien sûr, j'accepte. Ce que je n'aime pas, en tout cas, ce que je trouve triste, c'est qu'on ne utilise pas ce trésor magnifique qu'est la langue. Et donc, on diminue le nombre de mots. Vous voyez, on dit on va simplifier. Mais simplifier, ça veut dire appauvrir.
Ça veut dire, tu vois, je t'aime. Je veux dire,
d'accord. Alors qu'il y a mille mots pour
quelle est ma seule chance ? Parce que j'ai un physique pas formidable.
Oh.
Mais attends, soyons réalistes. Ma seule chance, c'est que quand on dit je t'aime, je commence par je t'aime. Et puis après, j'ai des variations. Alors, c'est une dame qui m'intéressait. Elle dit, bon, d'accord, il n'a aucun intérêt. Et puis, elle a un super beau mec, mais qui, quand il lui répète sans arrêt je t'aime, il a le temps, bah, au bout d'un moment, elle préfère un mec nettement moins beau, mais qui sait moduler la variation.
Face à vous, Éric Orsenna, un monument de la littérature niçoise. Pilier des éditions Flammarion. Entre autres chefs-d'œuvre, on citera notamment Journal d'une jeune fille dérangée, À la recherche du tampon perdu, ou encore évidemment Prix Femina Yoli 2012, Autant on emporte le pan bagnard. Entre deux romans, Eva Rock est également notre spécialiste média. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir, Eva ?
Eh bien écoutez, la série dont je veux vous parler ce soir, elle débute sur 7h.
Ça, c'est une grosse comédie, ça.
Pas du tout. Un homme promène son chien dans une forêt. Alors, d'après vous, est-ce qu'on est plutôt balade bucolique ou on est dans le drame à venir ? Alors, un indice. La fiction est intitulée The Outsider et c'est l'adaptation d'un roman de Stephen King. D'après vous, mais oui, évidemment. Le drame, c'est l'horreur même. C'est l'horreur qui est au bout du chemin. On va retrouver le corps mutilé d'un enfant.
Ah non. Moi,
et en quelques heures, écoutez, preuves et témoignages vont s'accumuler et désignent un seul homme. Il s'appelle Terry, c'est l'entraîneur de l'équipe de baseball de la ville. L'homme est arrêté, mais nous en sommes qu'à la moitié du premier épisode. Donc là, on se dit, il y a un loup. Parce que si toute l'intrigue est déjà... Non, mais pas dans la forêt, que vous êtes bête. Tout est déjà trouvé. Si tout est déjà trouvé à la moitié du premier épisode, bon.
Il y en a combien des épisodes ? C'est une mini-série ou...
10 épisodes. Eh bien, en fait, une vidéosurveillance va prouver que Terry se trouvait à 100 km du lieu du crime au moment des faits. Et pourtant, les empreintes de Terry sont bien présentes sur le corps du garçon. Alors, qu'est-ce qui se passe ?
C'est machiavélique.
Eh bien, vous allez vous accrocher parce que les révélations et les rebondissements vont s'enchaîner. C'est un thriller avec une once de fantastique qui est propre à Stephen King, vous le savez bien. Mais ça n'arrive que très tard dans la série. La série est absolument fascinante. Elle est effrayante, mais fascinante, avec une réalisation absolument remarquable d'efficacité et d'esthétisme. Aucune fausse note du côté des acteurs, mais évidemment, c'est le scénario qui est un vrai bijou. 10 épisodes pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. C'est sur OCS et ça s'appelle donc The Outsider. Dernier point. Si vous ne savez pas que Carlos Ghosn a fui le Japon pour le Liban, complément d'enquête vous raconte tout, enfin presque tout, c'est sur France 2 à 22h50, mais vous pouvez aussi dormir, bien évidemment. Voilà.
Merci
je
Emma.
Je n'en peux plus, je suis désolée, mais
c'était
je n'en peux plus.
17 minutes de gagner, merci Emma. Europe 1. À suivre, notre dernier journaliste en compétition s'échauffe. Jérôme Lacroix aime jouer avec la langue française. Il aime les mots, les bons mots et le sport. Son dada, les jeux de mots autour du sport.
Le président de la fédération, Bernard Laporte, ne ferme pas la porte.
C'était pas votre meilleure, celle-ci. Pour des résultats à l'image des sportifs français en dents de scie. Justement, quelle est l'origine de ces expressions bien connues ? Coiffer au poteau, tomber à pic, épater la galerie ou encore jeter l'éponge. Elles viennent toutes du monde du sport. Jérôme Lacroix les décrypte pour nous.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
C'est la dernière ligne droite pour nos trépidants journalistes. Un seul sera élu chroniqueur du jour. L'équipe est sauvage entre dans sa phase décisive. Compétition, vous le savez, toujours chapeautée par un invité d'honneur. Aujourd'hui, une référence dans le monde de la littérature, une plume alerte qui, depuis 1974, porte haut l'étendard de notre belle langue française. Vous voyez évidemment de qui je veux parler, Jérôme.
Chantal Goya.
Et non, hélas non, Chantal n'était pas disponible. C'est l'écrivain Éric Orsenna qui l'a remplacé au pied levé. Et sans atteindre les cimes stylistiques de Chantal Goya, force est d'admettre qu'il se débrouille pas mal. Votre dernier roman s'intitule « Briser en nous la mer gelée ». Enfin, je suis éberlué devant les conneries que j'ai. Il nous interroge sur notre capacité à aimer et à se re-aimer, si tant est qu'on puisse le dire. On continue d'en parler, mais l'heure est venue d'écouter notre ultime concurrent du jour, Jérôme Lacroix. Éric Orsenna, à ce stade, si vous deviez faire un premier bilan de notre émission...
Comme disait Brassens, l'âge ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con.
Merci. Eh bien, on vous écoute, Jérôme, et bonne chance.
Oui, justement, tu as parlé de chance. Vous noterez que je ne recule devant aucun défi. Oui. Celui de cet après-midi, Éric Orsenna, il sera réussi. Si bon sang, j'arrive à apprendre quelque chose sur la langue française, un académicien, vous serez d'accord.
Alors,
je vous raconte qu'un jour, j'ai foncé bille en tête pour épater la galerie, mais j'ai dû jeter l'éponge. Voilà, trois expressions dans cette phrase. Et elles nous viennent toutes du monde du sport. Je vous propose de vous raconter maintenant comment le sport a parfois façonné notre langue française. Alors je vous parlais d'épater la galerie. Ce qui est marrant, c'est de constater qu'il y a plusieurs de ces expressions courantes qui proviennent du jeu de paume, vous savez, l'ancêtre du tennis qu'on pratique depuis des siècles et qu'on pratique d'ailleurs encore toujours aujourd'hui. Épater la galerie.
Ah, moi, je pensais épater la galerie des glaces, moi,
bah,
je pensais.
Bah non, bah vous allez l'entendre. Le jeu de paume, c'était d'abord un sport extérieur. À partir du 14e siècle, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne jouerait pas en intérieur ? C'est alors qu'au bord des terrains, on a construit, donc, dans les salles, des sortes de petits couloirs sur le côté du terrain pour que s'installent les spectateurs, un peu comme une tribune. On l'a surmonté d'un toit pour protéger le public, parce que les balles s'affusent, alors pour éviter qu'ils se les prennent dessus, on a monté des toits. Ça formait donc comme une galerie, alors quand on était fort au jeu de paume, et ben dis donc, où on épatait la galerie, voilà d'où ça vient. Il y a aussi, par exemple, rester sur le carreau, on connaît cette expression. La surface des terrains des jeux de paume, avant, et ben, elle était ornée, décorée de carreaux, alors quand un joueur, par exemple, se cassait la figure, ou alors perdait, ben, on disait qu'il restait sur le carreau, tout
c'est
simplement.
Génial.
Alors,
je ne savais pas que ça venait
vous saviez tout
fait.
Ça, Eric Orsena?
Je savais les galeries, le carreau, je ne savais pas.
Bon, alors, j'en ai d'autres. Citons pourquoi pas jeu de main, jeu de vilain, on connaît ça. Oui. Au jeu de paume, les plus fortunés jouaient équipés d'un gant de cuir, puis un peu plus tard d'une raquette. Mais les plus pauvres, qualifiés ici de vilains, c'est pas très beau, bah, ils jouaient à main nue, jeu de main, jeu de vilain.
Oh, et alors, vous nous racontez aussi l'origine de jeter l'éponge. Ça vient de la boxe.
Oui, alors cette éponge, pourquoi l'éponge? Bah, c'est celle utilisée par les entraîneurs de boxe entre chaque round pour nettoyer la sueur ou le sang, hein, parfois de leur poulain. Et quand le combattant n'en pouvait plus, bah, l'entraîneur il jetait l'éponge sur le ring en signe d'abandon. Il abandonne, on jette l'éponge. L'expression « entrer en lice », par exemple. Qu'est-ce que c'est que ces lices? On repart ici là autant des chevaliers, des combats de chevaliers. En fait, les lices, c'était des barrières installées pour matérialiser les bords de l'arène dans laquelle se tenaient ces joutes. On entrait en lice, on entrait en compétition. Il y a aussi foncer bille en tête, par exemple. Alors,
ah oui,
on parle
c'est
de bille.
Quoi, oui.
Alors, en fait, c'est la boule de billard plutôt que la bille. C'était un coup spécifique au billard. C'est un coup, ça existe toujours, qui consiste à donner un coup très sec, très vif avec la canne. Donc, on part bille en tête, on part à fond. Je finis avec une dernière parce que j'ai beaucoup de tendresse pour celle-là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé très mignonne cette histoire. Elle nous vient d'un jeu d'adresse pratiqué aux alentours du 15e siècle. Je vais la faire deviner, tenez cette expression.
Ah bon,
on traçait un cercle au sol. On y mettait à l'intérieur tout un tas d'épingles, beaucoup d'épingles. Le but était de faire sortir ces épingles du cercle en les poussant, en les tirant, en jetant un caillou au milieu de cet amas d'épingles.
Oui.
C'est un peu un jeu entre le Chamboultou et le Mikado. Ça a donné tirer
son épingle du jeu.
Ah, ouais.
C'est
magnifique.
Voilà.
Jérôme, vous m'avez écrit plein de trucs.
Alors, c'est ça la langue française. Vous comprenez, c'est que c'est un trésor collectif qui a été inventé depuis 12 ou 13 siècles sur des bases de langues antérieures et qui a été inventé par tout le monde. C'est-à-dire, c'est les brefs de comptoir, mais c'est les rois, mais c'est les poètes, mais c'est les gangsters, mais vous voyez, c'est ça qui est merveilleux. Et quand vous prenez, on me demande souvent dans l'île déserte, qu'est-ce que vous emporteriez comme livre ? C'est évidemment le dictionnaire.
Oui.
Parce que le dictionnaire, c'est toutes les histoires possibles et en même temps, chaque mot est une histoire. Deux exemples. Maintenant, pourquoi ça veut dire tout de suite ? Parce que maintenant, on tient la main qui tient. Main qui tient.
Oui, d'accord.
Et quand on dit hippopotame, on reprend l'origine grecque, hippo, cheval, potamos, le fleuve. Qu'est-ce qu'un hippopotame ? C'est le cheval du fleuve. Et moi, je me souviens, on dit Philippe. Et je vais dans les classes, je leur dis, mais pourquoi tu t'appelles Philippe ? Pourquoi t'as laissé ton cheval à l'entrée ? Je dis, pourquoi ? Quel rapport à un cheval ? Ben, Philippe, ça veut dire celui, Phil, qui aime le cheval. Phil, j'aime, comme philanthropie. Mmh. Et le cheval,
et combien,
il pose. Et là,
combien
voilà.
De
Philippe. Donc c'est ça. Alors ils sont des gamins.
Rigole.
Imaginez, en CM1, CM2, ils disent « Ah bon ? En Philippe ?» Alors après, ils reviennent, le prof me dit « Tu sais, il cherche toujours son cheval. » Donc vous voyez, c'est ça. C'est, il faut la rendre vivante. Elle est vivante. C'est pas un truc n'importe quoi. Vous voyez, c'est, si vous prenez du soin, vous retrouvez énormément de plaisir. C'est l'indifférence qui tue. Vous voyez, c'est ça. C'est pas la curiosité qui a un défaut. Le pire, c'est l'indifférence.
Jérôme
Vive
Lacroix,
la curiosité.
Jérôme
merci,
Lacroix,
Jérôme.
On lui dit merci. Aura-t-il tiré son épingle du jeu avec cette chronique ? Réponse juste avant 18h.
Europe 1.
À suivre, la première fois que j'ai croisé Olivier Pouls, l'homme qui devait devenir notre expert gastronomique, c'était dans une ruelle mal éclairée. Il se baladait en aiguisant un couteau japonais. J'ai voulu changer de trottoir, mais il s'est planté devant moi et m'a dit
« T'as devant toi le spécialiste de travers de porc, c'est le poivre. »
C'est le début d'une amitié qui dure depuis 10 ans. Et si je l'aime tant, c'est que chaque jour, il nous livre une recette de dernière minute facile et goûteuse, délice in extremis. À suivre dans l'équipe est sauvage.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Qui rentrera chez lui la tête haute? Qui au contraire s'enfermera dans les sanitaires pour chouiner lamentablement? Le dénouement approche dans L'Équipée sauvage, la grande compète des meilleurs journalistes d'Europe 1. Sous l'œil complice mais torve de l'écrivain Éric Orsenna ce soir. Et au moment de lui poser quelques questions sur son dernier ouvrage, Briser en nous la mer gelée, je vous avoue ma plus grande peur. Qu'Evaroc intervienne et que, partant, l'interview bascule dans le surréalisme. Non. Dans le petit milieu du journalistique, on appelle ça le précédent Stéphane de Groot.
J'ai beaucoup de mal aussi à parler de ce livre parce que c'est mon premier ouvrage très personnel.
Oui, c'est la première fois que vous vous livrez dedans. Y
a... Ah, joli, beau jeu de mots. Livré, livre de mots, tout ça.
Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne comprends pas. Parce qu'on est...
Laissons vivre le moment en tout cas.
Là, c'est le début ou la fin de la phrase? Je ne sais pas.
On ne sait pas par où ça commence, on ne sait pas par où ça finit.
Ça fuse.
Ah ouais. Même moi.
Éric Orsenna.
C'était drôle en même temps. Bah, si, c'était drôle.
Oui, oui, c'était drôle. Mais maintenant est venu le moment de vous taire. Éric Orsenna, écrivain bien sûr, mais écrivain engagé. Vous avez par exemple participé avec l'ancienne ministre de la Culture, Françoise Nyssen, à l'élaboration d'un rapport sur les bibliothèques en France. Quelles mesures ont été prises au lendemain de ce travail? Est-ce que c'est satisfaisant?
Eh bien, écoutez, la plupart des rapports aboutissent à la poubelle.
Exactement.
Alors que ce rapport a permis d'ouvrir plus, puisqu'on a le premier bilan, et grâce à l'appui de ministre qui a aussi succédé, Franck Riester, on a pu ouvrir sur une zone qui donne la possibilité à tous ceux qui habitent dans cet endroit-là de la France, c'est-à-dire 9 millions de personnes, on a ouvert les bibliothèques et les médiathèques de plus de 8 heures. La deuxième chose, c'est qu'on a lancé, et c'est en train, une formation des bibliothécaires.
Mais il y a des chiffres là-dessus? Il y a du monde dans les bibliothèques aujourd'hui?
Mais évidemment, parce que... il y a du monde dans les bibliothèques.
Il y a des jeunes?
Mais évidemment, c'est justement ça. Alors, on me dit, mais de toute façon, vous, la culture, vous en foutez. Ce qui vous intéresse, c'est juste l'animation. Pas du tout. On commence par, c'est vrai, des jeux électroniques qui viennent. Mmh. Et puis, et tiens, et pourquoi pas? Et pourquoi tu ne prendrais pas ce livre-là? Vous accueillez un jeune, vous lui dites, bon, les électroniques, et si tu essayais de lire? Pourquoi pas?
Ce que vous nous dites, Éric Orsenna, c'est que votre curiosité, qui est à ta vie, qu'en tout cas, est consubstantielle à votre être, beaucoup de mots compliqués pour ne pas dire grand-chose finalement.
Oui. Vous êtes très curieux,
cette
quoi.
Cette curiosité, elle s'apprend? On peut apprendre la curiosité, on peut devenir curieux quand on n'est pas naturellement.
Oui et non, mais vous savez, c'est l'origine du mot. Et là, je prends mon maître en terminologie, Jean Blacois. C'est l'origine du mot. Le mot curiosité vient du latin cura, qui veut dire cure, comme dans curatif. Donc, le curieux est celui qui prend soin du monde. Donc, rien n'est pire que cette phrase, la curiosité est un vilain défaut. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'indifférence qui est une horreur, la curiosité. Et donc, dire simplement à la personne qu'on aime ou qu'on a en face de soi, mais comment ça va? Et écouter la réponse.
Oui, souvent, on n'écoute pas la réponse. Moi, souvent, je leur demande comment ça va, mais je suis déjà parti.
C'est ça l'affaire. C'est le deuxième temps. C'est écouter la réponse. Donc, la curiosité, c'est un propre d'humanité, simplement.
Comme Eva s'apprête à dire une vacherie, nous allons enchaîner rapidement. L'Équipée sauvage continue. Les amis, Éric Orsenna, je vous présente celui qui, chaque soir, fait rimer gourmandise et culture. Puisqu'il ne se contente jamais de nous livrer une simple recette, ce qui est passionnant avec ce gourmet à l'érudition incomparable, c'est que chacune de ces recettes est accompagnée d'une histoire de plat. Un récit d'une précision toujours épatante.
Et c'est un plat traditionnel qui remonte à bien longtemps.
Oh là, oui, Éric Orsenna, je ne vous cache pas que parfois on se dit...
Et c'est vraiment pas casser le cul.
Mais on l'aime quand même. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Bonjour Éric Orsenna, je suis vraiment très impressionné d'être là. Bon, académicien, Goncourt, très bien ça. Mais surtout...
Mais surtout, dans revers de la main.
Membre du club des 100, ce club de gourmands de fines fourchettes,
exactement.
Membre de l'Académie du vin de France, là exact. Ça force vraiment mon respect, et je crois même ancien, chevalier du Tastevin.
Et absolument, et ancien critique gastronomique chez Gomio.
Ben voilà. Et moi, vous avez préfacé plusieurs livres, dont celui de Frédéric, de mon ami Frédéric Simonin, tout à fait récemment.
Maître, magnifique avec lui. Et j'étais hier à une cérémonie que j'adore pour remettre les prix des meilleurs ouvriers de France.
Voilà, ça c'est beau.
C'est-à-dire dans tous les domaines, l'excellence. Il n'y a pas de hiérarchie entre les métiers.
Pouls, tâchez d'être bon.
Ah bah oui, alors aujourd'hui je vous offre une recette qui, je l'espère, va faire vibrer un petit peu la corde de votre enfance. On va parler de bœuf carotte. Et je crois que vous avez une passion pour ce plat.
Ah oui, absolument. C'est un plaisir. Qu'on appelait autrement bœuf mode.
Oui.
Bœuf mode.
Et pour faire un petit peu d'étymologie et rebondir à la chronique de Jérôme, les bœufs carottes, ce sont aussi, c'est ce qu'on appelle la police des policiers.
Mais oui, mais pourquoi?
Ah ben bah voilà pourquoi.
C'est ce qu'on appelle la brutalité de la cuisine.
Parce qu'on dit que lorsque les policiers sont confrontés à l'inspection générale, ils les font mijoter longuement comme un bœuf carotte.
Ça vient de là.
Ça vient de là. Vous voyez, aujourd'hui, on aura vraiment apprend, appris beaucoup de choses.
Vive la langue, vive la langue. La langue est vivante. Alors, et ça donne faim, d'ailleurs.
Ah oui, c'est vrai.
On approche du dîner.
On commence à avoir faim.
On approche du dîner.
Ben, une petite recette de bœuf carotte, alors.
Allez-y.
Oui, bah oui,
bon, alors. Tout d'abord, on va choisir les morceaux de bœuf.
Ah
moi,
bah,
je mets de la joue, du paleron, peut-être un petit morceau de gîte aussi.
Oui.
Il nous faut des carottes, évidemment, on est en pleine saison. Il nous faut un oignon, un peu de vin blanc.
Ah bah, toujours. Et vous prenez quoi comme vin blanc?
Alors, bon, on ne va pas prendre le meilleur vin blanc de la cave.
Non, mais quand même.
Mais on pourrait prendre un petit bourgogne tout simple.
Un petit truc, un petit aligoté, comme ça.
Oui, par exemple.
Il n'y a rien de meilleur pour libérer que l'aligoté.
Et puis, de toute façon, il faut mettre un vin... Donc, quand on cuisine avec du vin, il faut que le vin soit quand même assez bon, parce que c'est le goût de la sauce.
Il ne faut pas lésiner.
On va faire... il nous faut un oignon aussi. Donc, on va faire revenir nos morceaux de viande dans un petit peu de matière grasse. Avec l'oignon, on va faire fondre tout ça. On va rapidement faire revenir les carottes aussi qu'on aura coupées en morceaux. Mais ensuite, on va ressortir les carottes parce qu'elles ne doivent pas cuire aussi longtemps que la viande. On va rajouter notre vin blanc, un peu d'eau ou un peu de bouillon de volaille si on a.
Mais comment vous en mettez le vin blanc? Vous mettez toute la bouteille?
Ah non, 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 non.
Oh, malheureux.
Bah, il n'y aura plus rien à boire.
Et
l'apéro, alors. Bravo, bravo. Bah, c'est pour ça qu'il ne faut pas lésiner. Il ne faut pas lésiner. Il ne faut pas mettre un vin nul comme ça dedans.
Deux verres, et puis le reste de la bouteille, bah, vous la buvez pendant que le bœuf carotte mijote, parce qu'il doit quand même mijoter pendant 2 ou 3 heures.
Ah oui, donc c'est une recette express, pas trop express.
Il faut écouter le mijotement. Vous tendez l'oreille. Et vous écoutez le mijotement.
Blop, 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 dans la casserole.
Blop, 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 blop. On fait ça bien tous les deux.
Magnifique.
D'ailleurs, on va faire un duo.
Bœuf, carotte. Et donc, une fois que ça a mijoté, un quart d'heure, 20 minutes avant de servir, vous allez remettre vos carottes. Parce que les carottes cuisent assez vite.
Exactement.
Et puis, bah, y a plus qu'à passer à table et aller chercher une autre bouteille, parce que bien évidemment, celle qu'on a ouverte pour en mettre dans les... elle est vide. Donc on va chercher autre chose.
Le désespoir. Elle est vide, alors vite,
et alors, est-ce que vous ne rajoutez pas, parce que moi je rajoute ça vers la fin, parce qu'il ne faut pas que ça cuise trop quand même. Et au fond, une expression que mon maître en terminologie, Jérôme Lacroix, pourrait expliquer, et qui résume au fond l'équipe de l'équipe Sauvage, qui s'appelle le bouquet garni.
Ah oui, un petit bouquet garni pendant la cuisson.
Parce qu'un brin de thym,
ça
ne fait pas mal.
Non, ça va parfumer la sauce.
Le thym.
Je suis tout à fait d'accord.
D'ailleurs, et on pourrait demander d'ailleurs aux auditeurs de nous envoyer l'orthographe du mot thym.
Oula.
Et on serait surpris. On risque de surpris.
Et ceux qui gagnent auront, je ne sais pas, 15 jours en Tunisie.
Oui. 15 jours en Tunisie. Mais vous êtes sur Europe 1, et quand ça n'en a pas les moyens, un dîner avec Olivier Pouls tout au plus.
Avec les audiences qui montent, vous allez avec.
C'est vrai. Bientôt,
j'irai chercher une belle bouteille de Beaujolais pour accompagner notre bœuf carotte.
Un morgon. Merci beaucoup, Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedi dans la tête des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Boule au ventre, regards assassins, la tension est maximale dans le studio Coluche alors que nous allons bientôt découvrir qui a été élu chroniqueur Europe 1 du jour. Il reste encore quelques minutes à notre invité Eric Orsenna pour faire un choix. Je suppose, Eric, que la tâche n'est pas simple.
Mais j'en ai rien à foutre.
Oui, non, ça c'est l'émotion qui vous gagne. Vous êtes comme nous, Eric, et comme tout un chacun, extrêmement tendu à l'approche du résultat. A tout de suite pour la grande finale.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Qui sera couronné chroniqueur du jour? Qui sera adoubé par notre invité académicien? Qui, en revanche, repartira chez lui avec le goût amer de la défaite et devra essuyer les piques acerbes de ses collègues qui, découvrant qu'il est dernier, lâcheront une horreur du style...
C'est pour ça qu'ils t'ont pas pris à RFM.
Oui, il y aura des déçus. C'est l'heure du dénouement. Qui va remporter la margoulette? C'est l'heure du kit ou double. Ils ont chacun 10 secondes pour défendre leur dossier devant notre invité Jérôme Lacroix. Pourquoi diable faudrait-il voter pour vous?
Parce que je crois qu'on s'est trouvé avec Eric Orsenna, qu'en pensez-vous? Partageons cet amour des mots de la langue française. Bon voilà, tout est dit je crois.
Tout est dit je crois, ça il devient hautain maintenant. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous? À part le fait que vous êtes bretonne évidemment.
Oui, bah alors justement, moi j'ai deux arguments. C'est que un, voyager écolo, c'est quand même un enjeu pour les générations à venir. Et puis deux, comme le dit un célèbre slogan touristique, la Bretagne, ça vous gagne.
Bravo ou pas, Eric Orsenna, vous êtes gentil. Farah Kessri, pourquoi faudrait-il voter pour vous?
Eh bien, comme Eric Orsenna, moi je suis une amoureuse de la vie, une amoureuse de la nature. Et donc, voter pour moi, c'est voter pour la vie. Et si je pouvais rajouter un mot sur la Bretagne, en fait, mon premier grand amour était breton. Non, mais c'est vrai, en plus.
Ils sont vraiment prêts à tout. Fred Vassy, pourquoi voter pour vous?
1917, déjà, film Europe 1, hein, il faut le dire. Donc, naissance du jazz. Alors, d'un côté, le vieux monde où c'est la guerre, ça s'entretient. De l'autre, le nouveau monde où un genre musical secret qui est né de la plus grande diaspora de l'histoire de l'humanité. C'est magnifique, il faut voter pour ça.
et il faut voter pour vous. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Ça a rarement été aussi serré, mais entre les quatre. Non, entre les quatre chroniqueurs. Parfois, c'est serré entre deux, mais là, entre vous quatre, c'est très serré. Et c'est Farah qui ouvre son compteur de points avec les deux premiers points.
Pour Farah Kestri, notre nouvelle recrue. Vous le savez, ici, c'est l'invité d'honneur qui a le dernier mot, mais j'ai quand même un petit point à donner. Oui, j'ai pas oublié que moi-même, je donnais un point. C'est très dur aujourd'hui, c'est vraiment très très dur. Je vais donner mes points à Jérôme Lacroix, car il nous a appris pas mal d'expressions, et ce soir, je ne vais pas me priver pour les refourguer au dîner, je crois que je le savais depuis longtemps. Mais vous le savez ici, nous savons recevoir, c'est l'invité qui a le dernier mot, Éric Orsenna, qui selon vous, parmi les journalistes d'Europe 1, mérite d'être élu chroniqueur du jour. 4 CDI sont entre vos bras. Non, pas 4, parce que Farah n'est pas encore en CDI. Non. Elle est en période d'essai, ce qui est pire.
Je vais vous dire, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, parce que j'ai appris énormément, j'ai beaucoup ri, et dans les chroniques, quand on peut voir un peu ce qui se passe dans la concurrence, si le rire est le propre de l'homme, comme disait Rabelais, le ricanement est le propre des aigris, comme on dit dans le taf. Et donc, ici, on rit sans aigritude, comme dirait Feu, l'ambassadrice des pôles. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Je vais voter pour Farah parce qu'elle nous rappelle, en tout cas elle me rappelle à moi, ma part animale qui, l'âge venant, a besoin d'être dopée régulièrement.
Mesdames et messieurs, c'est Farah Kestri qui remporte la 95e journée de l'équipe est sauvage. Éric Orsenna va la couronner lui-même. Ça, c'est magnifique. Éric Orsenna qui était donc notre invité pour son dernier roman « Briser en nous la mer gelée » chez Gallimard. Merci infiniment, Éric. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Faire des câlins poussés entre adultes très consentants.
Oui, on va se retrouver tous ensemble après l'émission. Merci également à mes équipiers du jour, Eva Rock, Farah Kestri, Anne Le Gall, Jérôme Lacroix, Fred Goati et Olivier Pouls. L'équipe est sauvage revient demain 16h.